Vous êtes à l'écoute de Paroles de vie, soyez les bienvenus. Ah non, ça n'est pas la fièvre du samedi soir, peut-être celle du dernier soir, allez savoir.
J'ai une fièvre d'éléphant, 53 de température. J'ai froid dehors, j'ai chaud dedans. Moi qui suis plutôt fort de nature, y a pas de lit assez grand, pas d'assez fort médicament, pas de docteur assez savant. C'est vraiment démoralisant.
Il s'appelle Big Mama, il est big malade, on ne sait pas ce qu'il a. Mais ça va pas, il a plus la banane.
Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants, alors si c'est vrai, celui-ci a 10 ans et il envoie des lettres à Dieu.
Mais j'ai l'impression que les médecins ne m'aiment plus, je les déprime. Mais pourquoi ils ne me disent pas tout simplement que je vais mourir? Si tu dis mourir dans un hôpital, personne n'entend. Tu peux être sûr qu'il va y avoir un trou d'air et que l'on va parler d'autre chose.
Il s'appelle Oscar et il est né de l'imagination du romancier-philosophe Éric-Emmanuel Schmitt. Il n'empêche, c'est tellement vrai ce qu'il raconte, ce petit bout de chou. Peu de gens échappent à l'hôpital et en tout cas, personne n'échappe à la mort. Nicole Carré nous en parle avec vivacité et le fait d'avoir été mourante lui permet d'en parler quasiment en connaissance de cause. Nous l'écoutons au micro de Farid Sergi.
Est-ce que vous pensez guérir un jour?
Vous avez lu mon livre, Guérir de ma leucémie. Là, ça fait depuis 92, donc ça fait 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Même si je suis toujours avec des contrôles tous les deux mois, parce que j'ai mis 6 ans à rechuter la première fois, qu'après je suis restée en traitement pendant 3 ans, j'espère dans ce sens-là. Mais si vous faites référence à mon livre et c'est ce qui m'habite, je sais que je vais mourir un jour, que nous allons tous mourir. Et ça, c'est ancré profondément en moi. Je me rends compte que quand on n'a pas touché la mort de près, la mort reste quelque chose d'un petit peu abstrait. Ça arrive aux autres, ça arrivera un jour, mais on n'y croit pas vraiment. Et quand on a touché la mort de très, très, très près, pas seulement avoir été très malade, mais j'ai été mourante plusieurs fois un jour, mais en 98, j'ai été mourante pendant des semaines en dégringolant jusqu'à l'extrême. On avait annoncé plusieurs fois à ma famille que tout était fini, qu'on ne pouvait plus rien faire. On n'a plus le même regard sur la vie. On sait qu'on est mourant. On sait qu'on est des mortels. Par rapport à la maladie, j'espère, mais je sais que je vais mourir. Mais ce qui est chevillé en moi, en même temps que cet espoir de guérir et de vivre, de devenir une vieille dame, c'est ce que j'ai découvert quand j'étais malade, c'est que c'est mon être profond qui a besoin d'être guéri. À quoi sert que mon corps soit guéri si moi, je ne suis pas heureuse et je crois que l'homme est appelé au bonheur et que si nous ne sommes pas en quête d'un bonheur profond, pas de ces petits bonheurs au jour le jour, la vie ne vaut pas le coup. Et donc, je reprendrai cette phrase du psychanalyste que j'avais à l'époque et qui m'a beaucoup aidée, disant « Ne dites pas si je guéris, car il savait que je pouvais ne pas guérir, mais quand je guérirai ?» J'ai vraiment compris que en moi, il y a une division, comme en chacun de nous. Il y a une division entre des forces de vie et des forces de mort. Nous n'osons pas dire telle chose parce que ça ne se fait pas. Comme je disais à une amie l'autre jour, j'avais envie de t'apporter un bouquet de fleurs et je me suis dit comme ça. Parce qu'elle rentrait d'un séjour à l'hôpital et que je savais qu'elle rentrait. Et puis je me suis dit, mais non, tu es ridicule. On ne suit pas certains mouvements intérieurs de vie qui ne correspondent pas à ce que nous dit toute l'étiquette sociale. Ça se fait, ça ne se fait pas. On ne dit pas je t'aime parce que enfin, on va pas dire « je t'aime », etc., etc. Et je crois que nous pouvons guérir de ça, et que c'est ça la grande guérison.
J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Vous dites que désirer guérir n'est pas aussi évident qu'on le croit. Pourquoi ?
Parce que pour désirer guérir, il faut choisir la vie. Et choisir la vie ne peut se faire qu'avec des renoncements. Si je suis amoureuse d'un homme qui habite le bout du monde, eh bien, vraiment amoureuse, il faut que je laisse tout ce que j'ai là pour vivre avec lui. Est-ce que je vais le laisser ou non ? Alors ça, c'est une image, mais qui est réelle, concrète à certains moments, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort encore. Est-ce que je vais m'engager dans la vie avec les reproches que certains peuvent me faire ou est-ce que je vais refuser ? Ce que je vis très fort depuis, je vis ça en moi depuis l'écriture de ce livre, où beaucoup de gens l'aiment, mais un certain nombre m'ont dit, notamment dans les milieux accompagnants, « c'est trop beau ». Et c'est un déchirement pour moi, « c'est trop beau ». Est-ce que je vais me ranger à ce que disent tous ceux qui ont de l'expérience d'accompagnement « c'est trop beau », « tu es un cas rare », « les malades ne veulent pas entendre parler de la mort » ou est-ce que je vais continuer à croire en ce que j'ai vécu dans ma chair et pas découvert abstraitement. Et est-ce que je vais continuer à le vivre, non pas l'imposer aux autres, mais le vivre et le partager avec qui veut le partager. C'est ça concrètement pour chacun d'entre nous. Est-ce que le meilleur de nous-mêmes, nous allons le vivre malgré tout ce qu'une autre partie de nous-mêmes peut dire? Par exemple, tu n'as pas le droit d'être heureux. Il y a tant de gens qui sont malheureux. Et au moment du tsunami, j'ai entendu des gens dire « nous avions une réunion festive, nous n'allons pas la faire parce qu'il y a des gens à l'autre bout du monde qui sont morts ». Qu'est-ce que ça changeait pour les gens à l'autre bout du monde ? Et si je ne fais pas de réunion amicale, mais que je n'ouvre pas mon cœur, ça ne sert strictement à rien.
En somme, il y a besoin d'être heureux soi-même, de choisir la vie pour pouvoir aider aussi les autres, pour être...
Absolument, c'est ça aussi, absolument.
Les autres ont besoin qu'on choisisse la vie, quoi.
Oui, des gens qui pleurent avec vous, vous en avez partout, mais des gens qui, par leur façon de vivre, vous rappellent qu'en vous, il y a autre chose que le malheur, vous n'en avez pas beaucoup, c'est ça que vous devez donner.
Ce n'est pas moi qui respire, c'est la vie qui respire en moi. Je sais ce que je dis, j'ai passé des semaines sous oxygène à respirer à peine, chaque inspiration pouvant être la dernière, tant mes poumons avaient de mal à fonctionner et tant j'étais faible. Je mourais à moi-même et je naissais. Je vis en la vie. Je suis porté par la vie. Je m'ouvre à l'invisible, à l'inconnu de la vie. Si je crois en la résurrection de la chair, en la vie éternelle, c'est parce que je crois que Dieu est vie. Je crois qu'il est la vie et qu'en lui nous demeurons.
Quelle analogie entre les petites morts de la vie et ce grand rendez-vous de la fin ?
Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites. Vous parlez de grand rendez-vous. Pour les croyants, le grand rendez-vous est avec Dieu. Et je rappelle que pour les croyants, ce grand rendez-vous avec Dieu est finalement un rendez-vous avec soi-même. C'est à ce moment-là qu'on perçoit ce qu'a été notre vie. Et finalement, ce n'est pas Dieu qui juge, c'est nous qui consentons à ce que nous sommes. Et d'en consentir à toutes nos faiblesses, eh bien, il y a un consentement à la mort, un consentement à la vie. Et alors, je suis moi-même. Pour chacun de nous, il y a des parts d'ombre et cette part de lumière. Et consentir à nos parts d'ombre, c'est ça qui fait la lumière. Parce que sinon, tout est grisâtre. La lumière n'est là que parce qu'il y a en contraste l'ombre. Eh bien, dans la vie quotidienne, je crois que c'est exactement la même chose. Est-ce que je vais opter pour la lumière ou est-ce que je vais opter pour ma part d'ombre? Et si je veux la lumière, eh bien, il faut que je meure à ma part d'ombre. Par exemple, ce qui se joue pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, moi, je le vis dans la relation aux autres. L'autre s'est mis en valeur, alors qu'il a fait... nous avons l'impression qu'il ne vaut pas plus que nous. Nous avons envie, pas forcément de lui casser les reins, mais de lui montrer que nous sommes quelqu'un de bien, voire mieux que lui. Est-ce que je vais opter pour cette part de mesquinerie ou je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire pas forcément me rabaisser, ça peut être aussi que je n'ai pas osé montrer, je n'ai pas osé vivre tout ce que je sais faire, tout ce que je suis restée dans le tiède parce que c'est moins risqué. Est-ce que je vais oser être moi-même? C'est tout le temps ça, je crois.
La parabole des talents.
Oui, aussi. Est-ce que si j'ai des talents, je vais oser vivre mes talents? Ou est-ce que je vais me comparer aux autres en disant « T'as pas le droit, Nicole, d'être heureuse quand tu vois des gens si malheureux autour de toi, donc il faut que tu baisses un petit peu la tête. » Je crois que c'est pareil pour chacun de nous.
From glass alabaster, she poured out the depths of her soul. Darken the dirt of humblest offerings to forgive the hurt. She is strong enough to stand in your love. I can hear her say, I'm weak, I'm poor, I'm broken, Lord, but I'm yours.
Nous aurons le plaisir de retrouver très bientôt Nicole Carré, notre invitée, autour de laquelle s'est construite cette série d'émissions de paroles de vie intitulée « Mieux préparer sa vie ». Si vous désirez obtenir gratuitement le CD de cette émission, écrivez-nous à Parole de vie, boîte postale 310, 18007 Bourges-Sedex. Parole de vie, boîte postale 310, 18007 Bourges-Sedex. Ou alors sur internet www.parole.ch.